Merci beaucoup, rendez-vous à 12h30 pour le journal au complet. Bonjour à tous. À partir de 12h55, nous partirons avec un aventurier contemporain, l'écrivain voyageur Sylvain Tesson. Connu pour ses récits de voyage en Asie centrale ou encore en Sibérie, il s'est rendu cette fois sur les hauts plateaux aux confins du Tibet avec le photographe Vincent Munier sur les traces de la panthère des neiges. Prendre de la hauteur, regarder autrement et attendre que ce grand fauve apparaisse. Son dernier livre, La panthère des neiges, vient de paraître chez Gallimard. Il sera là pour nous en parler. Mais d'abord, on part sur les pas de trois aventuriers de la banquise, une expédition dans le Grand Nord qui a mal tourné il y a plus d'un siècle de cela. Hélène Gaudy remonte le fil de leurs rêves dans Un monde sans rivage paru chez Actes Sud. La romancière est notre invitée, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Il s'appelait Salomon Auguste André Knut Frenkel et Niels Strindberg. Qui sont ces hommes de glace découverts à l'été 1930 lors de la fonte des glaces? Quelle quête, quelles images rapportées? Bonjour Hélène Gaudy.
Bonjour.
Qui sont-ils? 1897, ils partent. 1930, on découvre leur corps et avec le journal de l'expédition et des rouleaux de pellicule qui ont survécu au froid. Comment vous, vous avez découvert cette histoire?
Alors je l'ai vraiment découverte en découvrant les images. Ça a été la première rencontre avec cette histoire et c'est resté les images auxquelles je suis toujours revenue dans l'écriture. Il y a eu une espèce de fascination vraiment devant ces photographies où on voit donc des hommes en train de poser mais aussi en train de disparaître puisqu'ils se photographient à mesure qu'ils marchent sur la banquise jusqu'à être littéralement avalés par le paysage. Et sur les images, on les voit à la fois disparaître et vraiment apparaître puisque ces photos vont être développées par miracle dans les années 30 alors qu'ils avaient disparu depuis 30 ans, alors qu'ils étaient devenus des sortes de fantômes en alimentant les faits divers, les légendes de l'époque. Et d'un coup, sur ces images, pourtant ces négatifs tellement abîmés, un homme va réussir à les développer et à les faire vraiment réapparaître 30 ans après leur disparition. Et ces images-là, elles portent vraiment cette force d'apparition et à laquelle j'ai essayé toujours de revenir en écrivant.
Ce sont des amis, ce sont des aventuriers professionnels. Qui sont ces trois hommes?
Ce sont des scientifiques, des ingénieurs. Salomon Auguste André, le chef de l'expédition, s'est entouré donc d'un ingénieur, d'un scientifique et photographe, Niels Strindberg, et de Knut Frenkel, qui est aussi un ingénieur. Je ne sais pas si on peut dire que ce sont des amis, mais en tout cas, ils vont vivre tous les trois en... Alors, c'est étrange de dire en huis clos, puisqu'ils sont dans ce paysage tellement ouvert, tellement immense, et en même temps... désespérément seuls, puisqu'ils n'ont aucun espoir de croiser qui que ce soit d'autre dans cet endroit-là. Donc ils vont vraiment vivre à trois et essayer de se comprendre, de se connaître aussi sans doute. Mais de ça, on a quand même très peu de traces, puisque dans leurs écrits, ils n'écrivent vraiment presque rien sur leur manière de se parler, de vivre ensemble. Mais on a l'impression comme ça, à les lire et à regarder les images, d'une espèce de camaraderie assez bon enfant, assez légère, alors qu'ils sont quand même dans des conditions évidemment extrêmement difficiles.
Le contact entre eux et vous va donc se faire dans un musée de Copenhague en 2014. Et le roman s'ouvre sur cette image. Ils sont debout devant une forme sombre, écrivez-vous, un immense ballon tombé, immobile comme un animal échoué. On sent dans le tissu tendu le souffle d'un vent, comme si une bouche immense le gonflait encore. L'un d'eux amorce un mouvement, l'autre est immobile déjà. Ils étaient en plein ciel et maintenant ils sont là, à contempler la masse inerte de leurs rêves. Qu'est-ce que cette photo, cette image, cette vision presque va provoquer en vous? Comment elle va vous interpeller?
Cette image est vraiment, elle a quelque chose de surréaliste, c'est ce ballon à hydrogène qui est comme ça tombé sur la banquise. Je vais avoir tout de suite envie de remonter un petit peu le temps à partir des photographies, de chercher qui ils ont pu être, pourquoi ils sont partis, et puis d'imaginer aussi les blancs, les vides qui sont extrêmement nombreux, puisque ces images, comme leurs journaux d'expédition d'ailleurs, montrent toujours une version extrêmement positive, et c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg, on va dire, et on se doute bien qu'entre les images et entre les lignes qu'ils écrivent, il y a toute une autre vie dont ils ne disent rien. Et l'écriture se glisse là.
Et dans ce flux d'images dans lequel nous baignons tous à longueur de journée, il y a presque une enquête dans l'enquête, une enquête intime à faire, de savoir pourquoi cette image-là a retenu votre attention plus qu'une autre, en quoi elle va vous parler, dans quel abîme, peut-être aussi, elle va vous faire basculer. Mathieu Riboulet, l'écrivain, disparu en 2018, sur le travail d'écriture à partir d'une photo, vous vous y référez, on l'écoute.
J'ai voulu vraiment le plus patiemment possible me livrer à cet exercice de description et m'approcher au plus près de l'émotion ressentie à la vision de cette photographie, à la vision de ce corps, à la vision de ce paysage, à la vision de l'inscription de l'un dans l'autre. Et vraiment, l'ensemble des textes de ce recueil font tous ce cheminement d'essayer de s'approcher au plus près de l'émotion avec le plus de précision possible, avec aussi le plus de calme possible, d'une certaine manière, parce que le texte n'est pas toujours sur le régime de la tension ou de la colère, comme il peut l'être parfois. Et là, j'ai éprouvé le besoin de prendre cette espèce de temps qui permet de faire apparaître vraiment clairement l'objectif qu'on se fixe, qui en l'occurrence est d'arriver au plus près, au plus juste de l'expression, du sentiment ressenti, quoi, de l'émotion.
Là, aujourd'hui, vous, la romancière Hélène Godie, en vous emparant de ce mystère, vous vous inscrivez dans une continuité. Vous devenez le maillon d'une chaîne faite de scientifiques, de voyageurs, de curieux qui mènent l'enquête, et vous en avez conscience, vous l'écrivez. Entre les deux, il n'y a rien. C'était le titre du livre de Mathieu Riboulet. C'est cet interstice-là que vous vouliez explorer. Ce rien si plein, parce qu'ils ne sont jamais vides, ces riens.
Oui, j'aime beaucoup ce livre de Mathieu Riboulet et j'aime beaucoup l'entendre aussi. Il y a cette question de l'interstice, c'est vrai, qui revient toujours, parce que moi je travaille beaucoup en frottant des choses les unes contre les autres. Ça peut être un fragment de journal et un récit, ça peut être une image et une lettre par exemple, et essayer de chercher entre deux choses, voilà, ce qui peut émerger. Et l'écriture à partir d'une photographie, pour moi c'est aussi une espèce de plongée en fait progressive dans le temps aussi, puisque cette image au départ elle est irréductiblement loin de nous, et pour moi tout le travail d'écriture c'est aussi de descendre, j'avais toujours cette image là de descendre un peu comme quand on plonge en apnée palier par palier vers cette époque là et de trouver, comme le dit très bien Riboulet, justement la matière et l'émotion d'un temps qui pourtant est extrêmement loin de nous. Pour moi l'écriture sert aussi à s'approcher de ce qui est loin. Pas peut-être à combler les blancs, parce que pour moi les blancs ils sont importants, je voudrais qu'ils continuent à exister, y compris les zones blanches justement de cette banquise, mais à les mettre en lumière, à les peupler, à faire sentir peut-être les présences qui sont enfouies dans cette espèce d'abîme qui est à la fois le temps et l'espace, puisque là on est dans un lieu et dans un temps extrêmement lointain.
Vous écrivez que l'enquête et d'ailleurs un moyen détourné de fouiller en soi-même, de gratter une plaie dont on ignorait jusque-là l'existence. Qu'est-ce que vous avez trouvé de vous-même en suivant la trace de ces aventuriers ?
Alors c'est toujours difficile à exprimer parce que c'est l'écriture qui va chercher ça. Et en quelques phrases, c'est difficile à dire, évidemment. Mais en tout cas, par rapport à mon roman précédent, Une île, une forteresse, où il y avait vraiment un lien très intime, familial, personnel, avec l'histoire que je racontais, un lien qui s'est révélé petit à petit. Ce que j'ai trouvé en écrivant Un monde sans rivage, comme lien avec cette photographie, c'est plutôt un lien collectif, en réalité, qui lie leur monde au nôtre. Finalement, le monde de ces trois explorateurs de la fin du 19e, pour moi, c'est une sorte de préhistoire et d'aura de notre monde à nous. Évidemment, c'est pas les seuls. Il y a eu beaucoup d'explorateurs à cette époque qui étaient tous dans cette espèce d'appétit assez frénétique par rapport au monde, appétit de découverte, de regard, où il fallait tout voir, tout rendre visible, tout connaître. Et aujourd'hui, il me semble qu'on est vraiment plongé dans les limites de ce rapport au monde. Et pour moi, ce qui est apparu surtout, c'est vraiment ce fil très tendu qui nous lie à leur monde à eux, et les conséquences aussi du rapport au monde que eux-mêmes ont initié. Et c'est quelque chose que finalement j'ai fini par voir dans les photos elles-mêmes, où très longtemps j'ai vu trois hommes en train de disparaître et où, avec la, au fil du temps, j'ai fini par voir un paysage en réalité en train de disparaître. Ce paysage qui les a avalés eux, mais qui aujourd'hui est lui-même en train de s'évanouir.
Alors vous racontez leur niveau d'impréparation presque touchante hein, à ce niveau-là. Avec quel rêve partait-il pour vous, pour tout bagage? Parce qu'il est peut-être là l'essentiel.
Ils partent avec les rêves de toute une époque qui, à ce moment-là, continue à rêver à un continent, déjà au pôle Nord, même si on commence à savoir que le pôle Nord ne serait qu'un point géographique abstrait, ce qui est quand même un petit peu décevant. Il y a quand même encore ce rêve qui est là, qu'on retrouve par exemple dans la théorie de la Terre creuse, où on pensait que au niveau des pôles s'ouvraient des ouvertures qui nous amèneraient à une civilisation enfouie au centre de la Terre, par exemple. C'est des choses qui sont encore présentes dans l'imaginaire de cette époque-là. Il y a tout l'imaginaire de Jules Verne aussi. Donc il y a tout ce rêve-là. Et puis il y a aussi, de manière moins romantique, une espèce de ferveur assez nationaliste, assez virile, de connaître le monde, d'être le premier à planter son drapeau.
Il y a un rêve de postérité, vous l'écrivez.
De postérité, ouais. Et de possession aussi. Ouais. C'est vrai que ils sont vraiment à cette frontière, c'est assez ambigu, parce qu'il y a à la fois ce désir de découverte qu'évidemment on partage, et que moi je partage en ayant envie d'écrire sur ce lieu, qui fait toujours rêver, même si aujourd'hui il est bien mieux connu, évidemment. Et puis il y a aussi voilà, des rêves qui sont plus des rêves de dominants, en fait, qui sont les leurs aussi. Et ce qui est à la fois assez touchant, c'est que ce rêve-là, il va s'amenuiser, évidemment, à mesure... qu'ils vont se heurter à l'échec. Et malgré ça, ils continuent à garder avec eux tout ce qui les ramène à leur civilisation, en fait, à laquelle ils sont si attachés. Notamment, comme vous le dites, leurs habits, leurs vestes en tweed, leurs casquettes, leurs cravates de soie dans les traîneaux. Ils vont continuer à se raccrocher à ça, comme beaucoup d'explorateurs, d'ailleurs, qui dînaient en Afrique sur des nappes en soie. Il y a cette envie, ce désir de toujours montrer qu'on est les êtres civilisés qui vont dominer le monde. Et c'est à la fois absurde et en même temps, ça les fait tenir aussi, parce qu'ils s'accrochent à ça, comme ils s'accrochent à l'appareil photo d'ailleurs.
La réalité de cette expédition, elle est en fait assez banale, factuellement et synthétiquement. Est-ce que vous pouvez reconstituer ce qui va leur arriver?
Oui, finalement, leur rêve, leur but de départ va durer très peu de temps, 3 jours, puisqu'ils sont partis en ballon, donc pour survoler le pôle Nord. Ce qu'ils veulent faire au départ, c'est prendre des photographies aériennes, c'est pour ça qu'ils ont un très bon matériel de photos. Et leur ballon tombe au bout de 3 jours sur la banquise, parce qu'ils pensaient qu'il faisait toujours très beau au pôle Nord, donc ils étaient quand même pas très au fait du climat, en tout cas du lieu où ils allaient s'envoler. Et donc ils tombent sur la banquise, et là, ils vont errer pendant 3 mois. Errer d'autant plus que la banquise, c'est un paysage mobile, donc qui nous amène en général dans le sens opposé de celui où on voudrait aller. Donc il leur arrive de marcher 15 kilomètres et puis de se retrouver le matin ou le lendemain matin à 30 kilomètres en arrière par rapport à leur destination, qui déjà est très imprécise puisqu'ils n'ont aucune carte et ils n'ont aucune idée finalement du lieu où ils se trouvent. Donc ils vont vraiment vivre une espèce de corps à corps comme ça avec ce paysage qui est extrêmement vivant, extrêmement mouvant. Et finalement, ça va aussi leur apporter, même si ça va leur être fatal, vraiment des moments d'émerveillement par rapport à ce lieu-là. Et ça, c'est extrêmement étonnant parce que dans leurs journaux, jusqu'à quelques jours avant leur mort, ils écrivent toujours que le paysage est sublime, qu'ils passent une soirée merveilleuse. Enfin, ils sont vraiment dans un rapport de curiosité et d'émerveillement par rapport à ce qui les entoure. Et ils vont finir par en mourir. De quoi exactement, c'est pas tout à fait connu. Je raconte dans le livre l'histoire que je trouve fascinante d'une jeune Suédoise qui a passé la moitié de sa vie à essayer de retrouver les os, de comprendre de quoi ils étaient morts, enfin d'expertiser de nouveau certains des ossements, plus exactement. Et donc elle a une théorie que je raconte, ça reste sa théorie, qui me paraît assez crédible. Mais voilà, ils finissent par mourir au moment où ils trouvent une terre ferme d'ailleurs. Alors que jusque-là, le mouvement, en fait, semble les avoir maintenus en vie. Et au moment où ils peuvent enfin s'arrêter et où la nuit polaire arrive, parce que c'est aussi, voilà, ils vont marcher pendant...
Prise au piège du froid, de la banquise.
Du froid, de la banquise, des ours, sans doute de leur propre épuisement. Et peut-être aussi d'un découragement qui finit par leur tomber dessus, alors qu'ils sont quand même extrêmement tenaces par rapport à ça, extrêmement positifs pendant tout leur voyage. on se doute qu'un petit grain de sable dans les rouages, ça peut avoir raison aussi de ça.
Alors, plus d'un siècle après, la technique et la connaissance a évolué, mais quelle permanence ! Écoutons l'explorateur Jean-Louis Étienne raconter son expédition à lui, celle de 1986, quand il est le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire.
L'arrivée au pôle Nord, c'est une libération extraordinaire. En plus, j'y arrive la nuit, enfin la nuit au sens de mon horaire. Il est 2h du matin, il fait jour. J'ai marché 24 heures d'affilée parce que j'avais la banquise contre moi qui dérivait et je sentais que c'était en train de m'échapper. Je ne pouvais pas m'arrêter. Donc je marchais à l'heure de qui correspondait à la nuit, 2h du matin. Donc je marchais avec le soleil en face. Et dans le ciel, il y a des cristaux de glace, vous voyez, parce qu'il y a toujours un petit peu de vent qui soulève des cristaux de glace. Et donc, je les voyais comme des étoiles. Et donc, j'étais dans le ciel, je marchais, il y avait les étoiles de minuit qui étaient là. Et je suis arrivé au pôle Nord. C'était un soulagement. À un moment donné, à 2h du matin, je me suis dit, j'y suis. Peut-être pas encore. Donc, c'était tellement jouissant, cette arrivée. Si vous voulez, je me suis refait une deuxième arrivée. J'ai remarché pendant une heure, je dis, là, j'y suis. Et tout d'un coup, je dégrafe mon traîneau et c'était la fin de quelque chose qui m'avait obsédé pendant 2 ans. Et en fait, c'était pas la fin, c'était la renaissance de quelque chose qui allait orienter ma vie différemment. Donc cette image de moi en train d'arriver, je dégrafe mon traîneau, je m'assieds dessus, je me retourne vers lui, j'ai dit « on y est arrivé ». J'ai parlé au traîneau, j'ai parlé à tout ce qui m'avait accompagné jusque-là, si vous voulez. Cette image, elle est indélébile, quoi.
Jean-Louis Étienne, évoquant son soulagement, le « on y est arrivé », vous évoquiez à l'instant, Hélène Gaudy, leur découragement, peut-être. Qu'en prennent-ils conscience? Qu'ils n'y arriveront pas, peut-être? Qu'est-ce que nous révèle là-dessus le journal d'André, dont vous reprenez de larges extraits, du basculement, de l'espoir qui va s'amenuiser, de la folie aussi, qui petit à petit va les gagner?
C'est difficile à dire, parce que au bout d'un moment, ils arrêtent d'écrire. En fait, ils arrêtent d'écrire au moment où, justement, ils ne peuvent plus fabriquer un récit acceptable. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on imagine, puisque jusqu'à très peu de temps avant leur mort, ils écrivent toujours des choses extrêmement positives. Notamment, ils fêtent le jubilé du roi de Suède avec du champagne qu'ils ont traîné pendant 3 mois dans leur traîneau sur la banquise. Donc, ils sont encore dans cette espèce de d'écart, en fait, entre la réalité et ce qu'ils essayent de construire. Et après, ils arrêtent d'écrire. Donc, vraiment, leur découragement leur appartient. Et il y a une espèce de nuit, en fait, qui va tomber à la fois concrètement, puisqu'on est début octobre quand ils arrêtent d'écrire, au moment où la nuit polaire complète va arriver. Ils meurent a priori juste avant cette nuit polaire, donc ils vont vraiment mourir avec la lumière, en fait, dans les dernières heures de lumière. Et là, ils n'écrivent plus rien. Et moi, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est évidemment de donner chair aux sensations, aux émotions, aux atmosphères, mais pas d'inventer des faits et de toujours m'en tenir au niveau des événements, à ce que eux ont raconté ou à ce que d'autres ont raconté sur leur histoire. Donc, je ne me suis pas aventurée à imaginer vraiment ces dernières heures, ou plutôt les imaginer, mais dans une forme d'intériorité, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça peut être d'être de toute façon dans ce qu'on sait, c'est-à-dire dans ce noir, dans ce paysage-là, seul, à 3, puis à 2, puisqu'on sait que le photographe va mourir le premier. J'ai essayé de rentrer pour ça dans une forme de proximité avec leurs sensations. Je leur ai par exemple prêté des rêves, mais c'est des choses que l'écriture va venir superposer aux faits, voilà. Mais par contre, les faits, j'ai essayé de pas les inventer, de rester dans ce que eux avaient choisi de dire aussi, parce que c'est aussi une forme de respect par rapport à ce qu'ils ont décidé de cacher, qui reste aussi mystérieux.
Mais on sent qu'en partant, ils n'avaient pas envisagé l'échec, hein, qu'il va se présenter à eux comme une ombre sombre et menaçante à un moment, un monde sans rivage pour un voyage sans retour. Dans le titre que vous avez choisi pour ce roman, on sent aussi toute la tragédie de ce destin, de ces rêves qui vont à un moment sombrer et se noyer. Dans l'actualité musicale, Hélène Gaudy, une musique venue du froid, elle aussi. Un extrait de Nanook of the North, Nanook l'Esquimau, ce film muet de l'américain Robert Flaherty, sorti en 1922. Film avec des images, mais sans musique. Maintenant, il en a une. Écoutez. Thank you. bande originale imaginée par Christine Ott et Thorsten Butcher, en écho aux images de l'américain Robert Flaherty. Des années après, presque un siècle, lui avait filmé cette famille d'Inuits, ce peuple nomade dans le Grand Nord canadien. Cette bande originale est à paraître le 25 octobre, aujourd'hui justement.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
On va donc retrouver la pellicule des photos prises pendant cette expédition. Et c'est un homme, John Herzberg, qui va développer ces photos découvertes par Olaf Salen et Carl Tusvig. Vous écrivez « Un homme la tient entre ses mains timides, experte mais timide, se retient de trembler. Il s'appelle John Herzberg. C'est un photographe et technicien émérite et ce jour-là, il se tient face à un cas de figure inédit. Dans ses négatifs dort un mystère qui agite la Suède depuis plus de 30 ans. Il l'a entre les mains, mais ses mains peuvent aussi au moindre geste inconsidéré le rendre à son obscurité. Il lui appartient, a-t-il écrit lui-même, de préciser les traces, de redonner vie aux scènes qui demeurent cachées. Un monde sans rivage, Hélène Godis, c'est aussi un roman sur la photographie, celle qui fixe et celle qui révèle, comme le dit l'écrivain Jean-Christophe Bailly, qui nous dit « la photographie contient du temps, on l'écoute ».
C'est toute la question du temps photographique, c'est-à-dire il est souvent analysé de façon purement technique à travers l'histoire du médium, donc avec les temps de pose assez longs du départ, et puis on arrive peu à peu à l'instant Kodak, et puis aujourd'hui à des temps de pose infinitésimaux. Mais disons que quoi qu'on fasse, c'est la photographie. Et nous apparaît à nous qui connaissons le cinéma comme la cristallisation même de ce qu'on appelle au cinéma l'arrêt sur image. Au fond, si on réfléchit, la peinture elle-même procédait, la peinture de figurative en tout cas, était elle-même aboutissait à une image qui fonctionne comme un. Il y a toujours arrêt sur image dans la structure de l'image non mouvement, de l'image non temps. Mais ce qui m'a toujours frappé, intrigué, d'ailleurs même au sujet de la peinture, mais la photographie aggrave cela ou rend cela plus troublant, plus inquiétant presque, c'est que à l'intérieur de cette chose qui a sauté du temps. Une photographie, en tant qu'elle est une image, elle ne bouge plus, donc elle a sauté du temps, mais elle contient du temps. Mmh. Elle contient du temps et aucune photographie, à mon sens, ne contient exactement la même quantité de temps. C'est pas par rapport au temps de prise, c'est pas par rapport au temps de pose, mais c'est quelque chose du temps s'est déposé dans ce qui s'en extrait. Et c'est par rapport à cela que la photographie a à voir avec la vie, évidemment, donc disons ce côté, le côté absolument lumineux, la lumière sans quoi rien de ce qui existe ne pourrait advenir, elle l'attrape, elle le saisit, elle en est fascinée, et au moment où elle s'en saisit, elle tue le vif.
Pourquoi on a l'impression, à vous lire, Hélène Godis, que les photographies retrouvées sont presque plus fortes que les mots du journal de l'expédition?
Justement, cette question du temps, elle est extrêmement sensible dans ces photographies-là, parce que non seulement tout ce que dit Jean-Christophe Bailly s'applique à ces photographies comme à toutes les photographies, mais en plus, celles-là, elles ont tout ce laps de temps, ces 30 ans où elles sont restées dans la glace, où encore une fois, il y a eu aussi beaucoup de strates ajoutées par le paysage lui-même, par le climat, par l'atmosphère du lieu qui a imposé sa marque aussi. Donc finalement, pour moi, c'est comme si ces photographies étaient une espèce de millefeuille de temps où on pouvait les éplucher petit à petit pour voir à chaque fois une strate différente. Il y a notamment des photos dans cette série qui sont complètement illisibles, qui sont devenues des images abstraites où on ne voit que des points, des taches, des nuances de gris. Et pourtant, quelqu'un s'est tenu là, à cet endroit. Et on ne le voit plus, il a disparu, mais elles sont encore plus fantomatiques donc que toute autre photographie. Mais quelqu'un s'est tenu devant l'objectif, sauf que il a été effacé par justement tout ce qui s'est passé depuis. Donc ces photographies, elles sont inépuisables pour moi parce qu'elles sont très plastiques en fait, elles sont toujours en mouvement. On peut toujours les voir autrement. On me pose souvent la question, pourquoi vous n'avez pas mis les photographies dans le livre? Et au dehors des questions pratiques du fait que ce soit un roman et d'impression, etc. Pour moi, s'il y avait vraiment l'importance de ne pas figer ces images, ce que peut faire l'écriture, c'est aussi leur montrer toujours une strate différente, un moment différent, un angle différent sur ces photos. Et voilà, pour moi, elles continuent à changer, elles continuent à bouger après les avoir vues.
Est-ce qu'un siècle plus tard, après cette expédition avortée, on a tiré les leçons de la force, de l'hostilité aussi de ces territoires, ou simplement du fait que la main de l'homme ne pourra jamais les contrôler?
Non, je pense pas du tout qu'on en ait tiré les leçons. Je pense que on est toujours dans ce rapport-là au vivant qui s'est initié bien avant 1897, mais qui trouve dans cette expédition une sorte de symbole. Simplement, on en voit les limites, effectivement. On en voit les limites, mais est-ce que pour autant on change à grande échelle? Évidemment non. Je pense qu'on fait même plus de dégâts aujourd'hui qu'à leur époque. Je pense qu'on est dans une espèce de déclin de ce moment-là, du temps, de ce moment de l'histoire où on était dans cette frénésie, cette espèce de joie à découvrir. On se rend compte aussi de l'écueil que ça peut être d'avoir un monde qui est si cadenassé, si quadrillé. Et ce qui est à la fois triste et assez beau, mais surtout triste, c'est que la possibilité de l'aventure, qui est quand même ce qui les a tenus, ces hommes-là, ils ont contribué aussi à la rendre caduque, puisque le monde est de plus en plus, il est de plus en plus difficile de trouver des zones blanches, évidemment. Et les zones blanches elles-mêmes disparaissent. Donc non, je pense pas qu'on en ait tiré les leçons. Je pense qu'on commence juste peut-être à prendre conscience des limites de ce rapport-là. Et voilà, à suivre.
Hélène Gaudy, merci beaucoup. Un monde sans rivage, votre roman, vient de paraître chez Actes Sud. Une grande table spéciale découverte à suivre. Sylvain Tesson, à l'occasion de la parution de La Panthère des Neiges chez Gallimard. Ce sera dans la deuxième partie de la grande table.